À tous, je voudrais qu'on se lève et qu'on fasse une prière pour un homme qui s'appelle Étienne et qui a de très graves problèmes financiers. Il m'a écrit une lettre au secours. Ma foi, nous ne pouvons pas l'aider, la somme est énorme mais voilà, on va prier pour lui, amen. C'est un homme qui a une entreprise et puis il y a eu des problèmes avec des envoûtements. Vous savez comment ça se passe en Afrique, c'est assez grave. Donc on va louer le Seigneur et lier ses démons afin que cet homme puisse être libre de retrouver l'abondance que Jésus promet. Amen. Seigneur notre Dieu, tu vois ce que cet homme m'a écrit. Je te demande, mon Dieu, que tu le bénisses. Tu pardonnes ses fautes, tu pardonnes ses péchés, tu pardonnes ses exagérations, tu pardonnes ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Je sais, Seigneur, que tu es celui qui pardonne. Tu le laves, tu le purifies par ton sang précieux. Et maintenant qu'il est pur, parce que tu l'as purifié, je te demande maintenant, Seigneur Jésus, de le délivrer de ses démons, de pauvreté, de moquerie, ces choses qui lui arrivent, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ces démons qui s'attaquent à son entreprise maintenant soient liés au nom de Jésus. Les sorts qui ont été jetés contre lui, que cela soit brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'une brèche soit faite dans les ténèbres et que la lumière paraisse au nom de Jésus. Que cet homme soit délivré et qu'il voit un signe de toi à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Sortez de la vie de cet homme, démon mauvais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je crois ça. Amen. Croyez-vous ça? Moi, je crois ça. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Il est ressuscité. Pas juste pour nous regarder dans le blanc des yeux, mais il est ressuscité pour vivre avec nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas pour rien. Pour nous bénir. Mais il ne faut pas non plus donner accès au diable. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce que les Juifs dans le désert, eh bien, quand ils ne marchaient pas avec la colonne de feu, ben, ma foi, c'était la catastrophe, hein. Il faut marcher avec le Seigneur, pas à pas. Et pour cela, eh bien, il faut que notre intelligence soit ouverte par le Saint-Esprit. Et maintenant, ça se fait par la prédication de la parole de Dieu, rien d'autre. La parole de Dieu vient aux prophètes, elle ne vient pas à tout le monde. C'est clair, ça a toujours été comme ça. Et c'est toujours comme ça. Vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors maintenant, gloire à Dieu, on peut contrôler dans la parole de Dieu pour voir si ce qui est prêché est vrai ou pas. Et ça, le Saint-Esprit peut nous éclairer, nous conduire. Et un prophète, comme n'importe quel homme ou n'importe quelle femme, personne n'est parfait. Donc c'est à vous de savoir si vous êtes dans la droite ligne avec le Saint-Esprit ou pas. Ben cet homme, je confesse, hein, il dit qu'il y a des choses dans sa vie qui n'ont pas été claires, mais il crie au secours à Dieu, en criant au secours sur le site « C'est faisable ». Oui ou non? Et nous sommes ici pour répondre par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ et exercer le ministère de délivrance. Amen. Amen. Donne-nous des nouvelles, Étienne. Jean chapitre 20, verset 21-23, maintenant, nous nous levons. Jean 20, 21-23. Jésus dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Amen. Si vous avez écouté la prédication de vendredi sur Internet, vous allez pouvoir continuer avec l'histoire, ces hommes qui ont couru, n'est-ce pas, de Emmaüs jusqu'à Jérusalem, ils arrivent, les deux disciples, par la porte orientale, parce que c'est la seule porte de la ville qui est ouverte pendant les fêtes, la nuit, une porte qui est ouverte, parce que comme il y a beaucoup d'étrangers, ça rentre, ça sort, et ils ont laissé une porte ouverte, c'est la porte orientale, donc ils le savent, ils rentrent par là, toutes les maisons sont plongées dans l'obscurité, il y a le silence dans toute la ville, les deux disciples se dirigent, ils ont fait exprès, hein. Enfin, pas vraiment, ils ont couru, ils n'ont pas calculé leur coup, mais ils sont arrivés de nuit, heureusement, parce que, étant donné que les disciples étaient quand même recherchés pour avoir volé le corps de Jésus, il valait mieux qu'ils n'arrivent pas quand la police était en train de faire ses rondes, là, ils étaient en train de dormir, donc voilà. Les deux disciples se dirigent à travers la ruelle, les ruelles étroites, ils se rendent dans la chambre haute, là où Jésus a mangé son dernier repas avec les disciples, le repas de la Pâque. Ils savent bien que les frères sont là. Ils savent bien que les frères sont là. Et les frères sont là, en train de se creuser les méninges au sujet de la disparition du corps de Jésus. Parce que maintenant, il n'y a plus que les femmes qui ont dit ça, mais ils l'ont entendu en ville. Hein? L'apôtre, je ne sais plus lequel, avait acheté une baguette de pain, puis il a entendu la boulangère qui en parlait, donc tout le monde en parlait. Hein? C'était terrible. Tout le monde ne parle que de ça en ville. Ah, ils ont peur, la porte est verrouillée. Ah, les deux disciples arrivent et ils frappent à la porte. Pas de réponse. Mais évidemment, pas de réponse. Hein. Quand on est recherché, alors on fait le mort. Hein. Ils ont peur. Alors ils s'approchent tout près de la porte puis ils disent leur nom. Ils savent bien que derrière, il y a des oreilles collées à la porte pour essayer d'écouter qui c'est qui est là.
C'est qui ?
C'est pas le plombier, c'était deux disciples qui étaient là. Et alors, évidemment, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre avec prudence, mais elle s'ouvre. Et ils entrent comme ça. Et Jésus, invisible, entre avec eux. Et puis la porte se referme. Et quelqu'un dit, « Mais Jésus, vous savez, il est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et les deux disciples sont encore essoufflés. Ils commencent à raconter comment Jésus leur est apparu sur le chemin d'Emmaüs. Ils racontent tout ça. Ils ont à peine terminé leur histoire qu'un disciple dit « Trop beau pour être vrai, mais attends, c'est pas possible. » Et soudain, quelqu'un apparaît au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Alors là, ils ont la trouille de leur vie, la peur de leur vie. Ils sont saisis par la peur. Déjà une fois, Jésus leur avait fait le coup. Hein, c'était une nuit, ils étaient sur la barque, et puis Jésus leur est apparu marchant sur l'eau, ils ont dit « c'est un fantôme, c'était pas un fantôme, mais là c'est un fantôme hein, !» Du moins c'est ce qu'ils croient, alors Jésus lui dit « Mais pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vous êtes troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? C'est bien moi, touchez, voyez, un fantôme n'a ni chair ni os comme moi !» Alors, il leur montre ses mains, il leur montre ses pieds, La marque des clous dans ses mains, ses belles mains qui s'étaient posées sur les malades, qui avaient été délivrés, tout ça. Alors c'est lui, mon Dieu, c'est lui, il est ressuscité, c'est vrai, mais ils n'arrivent pas encore à laisser éclater leur joie. C'est bien sa voix, c'est vrai, mais leur joie, ils n'arrivent pas encore à croire, ils sont contents, mais c'était un tel traumatisme, cette crucifixion, c'est une telle horreur. Alors Jésus voit bien ça. Alors il sourit et puis il dit « Vous n'avez rien mangé ?» Et quelqu'un apporte un morceau de poisson grillé, et puis un peu de miel, et puis Jésus s'assied et il mange, tout en les regardant et en souriant. Il sourit parce que bon, il sait bien ce qui se passe dans leur cœur, c'est terrible. Et l'incrédulité s'en va, et la foi commence à s'installer. Alors il n'y a pas de mots pour expliquer la joie, la louange, tout ce qui s'est passé dans cette chambre haute, cette nuit-là. Quand Jésus est né, l'ange avait dit « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Vous vous souvenez? Et maintenant que Jésus apparaît ressuscité, il dit « La paix soit avec vous ». Ce n'est plus tellement « Paix aux hommes de bonne volonté », voilà, mais c'est vous, c'est à vous. Jésus, il est toujours disposé à parler de paix aux hommes de bonne volonté. Même s'ils ont des doutes, même s'ils vivent dans la trouille, il attend seulement qu'on lui montre, qu'on lui ouvre la porte du cœur. Jésus est ressuscité. Et ça nous donne une immense espérance, mes frères et sœurs. Son aspect, sa manière, son langage, tout était familier aux disciples. Ils l'ont reconnu. Alors, de la même manière que Jésus s'est relevé d'entre les morts, de même, nous ressusciterons. Et alors, on reconnaîtra Mamie Madeleine, on reconnaîtra ma maman, on reconnaîtra tous ceux qui se sont endormis en lui. On les reconnaîtra, mais... Si dans leur vie mortelle, ils ont été abîmés, difformes, s'ils ont été infirmes, s'ils ont été défigurés, quand ils ressusciteront, ce sera avec un corps parfaitement sain et harmonieux. Un jour, je faisais le catéchisme aux enfants et une petite fille m'a dit « Mais on sera comment au siège ? Ce sera merveilleux, on sera tous jeunes, on aura tous 20 ans. » Et une petite s'est mise à pleurer, elle avait 4-5 ans. « Moi, je ne veux pas être une vieille !» Parce que pour elle, 20 ans, c'était être vieille. Nous, on se réjouit, on aime bien avoir 20 ans, hein, Igor? Pas tous les jours 20 ans, mais après, oui. Alors, nous connaîtrons, la Bible dit, comme nous sommes connus à l'heure actuelle. Jésus, alors, leur parle doucement, il leur explique, n'est-ce pas? Il leur dit que tout ce qui le concernait avait été écrit. dans les livres de Moïse, dans les livres des prophètes, et que toutes ces choses devaient absolument s'accomplir. Selon ce qui était écrit, ça devait être fait selon ce qui était écrit. Et puis Jésus n'a pas fait exprès d'aller se jeter dans la gueule du loup. C'est ce qui était écrit, les soldats l'ont fait. Ce qui était écrit, Judas l'a fait. Vous comprenez les choses? Il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Comment lire les Écritures? Comment les comprendre? Les religieux, eux, ils peuvent connaître les Écritures. Par cœur, mais c'est Dieu qui ouvre l'intelligence. Si ce n'est pas Dieu qui ouvre l'intelligence, vous pouvez connaître, afin de la comprendre, il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Pour qu'on comprenne le vrai sens de la parole de Dieu. Les religieux n'avaient pas compris. Qu'est-ce que les religieux avaient compris au sujet du Messie dans les Écritures? Ils avaient compris que le Messie allait venir pour régner. C'est écrit que le Messie va venir pour régner. Alors ils l'ont cru, pourquoi? Parce que ça les arrangeait. Parce que ça les arrangeait. Pensez donc, le Messie serait un religieux, c'est obligé. Donc quelqu'un comme eux, un croyant. Donc, eux, ils seraient de son côté. Et les politiciens, les Romains, toutes ces sortes de filous païens, ils n'auraient plus droit au chapitre. Ça serait eux qui seraient les maîtres du monde avec le Messie. Quand ils voient ce barbu qui vient là et puis qui fait des miracles et puis qui dit « race de vipère » aux religieux, bon, ils n'aiment pas trop. Hein. Ils pensaient que quand le Messie viendra, pour régner, nous, on sera ses ministres. Vous voyez, cette compréhension des Écritures était charnelle. Elle les arrangeait personnellement. Elle flattait leur ego. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Veillez à ne pas vous servir des Écritures pour votre confort personnel. Comprenez-la par le Saint-Esprit de Dieu ou ne la lisez pas. Elle pourrait vous conduire dans le mal. Ah bon, bien sûr. Eux, les religieux, la parole de Dieu les a conduits au déicide. Et plus tard, les religieux de tout poil ont été conduits à justifier leurs actions, l'Inquisition, les croisades et toutes leurs horreurs meurtrières. C'est par la parole de Dieu. Ils s'excusaient avec la parole de Dieu, ils se justifiaient par la parole de Dieu pour faire toutes ces horreurs. Tout ça parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures qu'ils connaissaient. Attention, danger. C'est un livre saint. C'est un livre saint, aussi sacré que l'Arche de l'Alliance. C'était pas permis d'y toucher à l'Arche de l'Alliance. Pas permis, sous peine de mort. Souvenez-vous d'Ouza, 2 Samuel 6, 6, 7. Faire attention. Nous pouvons lire, mais seulement si Jésus a ouvert notre intelligence. Si seulement nous nous sommes mis humblement dans la prière, Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi, éclaire-moi et que je puisse bien comprendre les Écritures. Qu'est-ce que tu as à me dire de... Qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Et depuis Jésus, Dieu a fait des dons aux hommes, des ministres. 5 ministères de la parole. Aujourd'hui, vous avez le ministère du balayage de l'Église, vous avez le ministère de... Tout le monde a un ministère dans l'Église maintenant. Mais il y a 5 ministères de la parole qui sert à ouvrir l'intelligence des fidèles. Ce que je vous disais tout à l'heure, Éphésiens 4, 11. Donc on passe par là aussi, on passe par là. Alors, dans cette chambre haute, les disciples commencent à se rendre compte de la portée, de l'étendue de ce qui va être leur vie à partir de maintenant. Bon, Jésus est ressuscité, c'est super, mais on s'habitue à tout, hein. On va pas reprendre, la vie va plus être du tout comme avant, ça va pas être une routine. Jésus parle encore, il dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. » C'est écrit. Il est aussi écrit que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée au nom du Messie, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il leur dit « Et c'est vous les témoins. » Il leur fait comprendre qu'est-ce qui va se passer. En fait, il est question d'eux dans les Écritures. Est-il question de vous dans les Écritures? Est-ce que vous avez trouvé votre place dans les Écritures? Jésus est en train de leur révéler un secret, une chose que les gens peu spirituels n'aiment pas vraiment croire ou tordent. Ils n'aiment pas entendre ces choses-là. Et Jésus leur dit, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était écrit. Et ce que vous allez le faire parce que c'est écrit. Jésus avait même encouragé Judas. Va, ce que tu as à faire, fais-le vite. Terrible, terrible. C'était écrit. Il allait renier pour 30 deniers. C'est écrit même la somme. C'est fou quand même. Après ces paroles, il souffle sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Alors le Saint-Esprit ne s'était pas encore manifesté dans sa plénitude, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et les disciples n'ont été immergés dans le Saint-Esprit qu'après l'ascension de Jésus à la Pentecôte. Mais tant que les disciples n'avaient pas été immergés dans le Saint-Esprit, ils n'étaient pas à même de prêcher, c'est-à-dire ils n'étaient pas à même d'ouvrir l'intelligence des autres eux-mêmes. Vous voyez? Mais à ce moment-là, dans cette chambre haute, ils ont bel et bien reçu le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Pourquoi? Pour leur permettre de remplir les fonctions officielles dans l'Église. Ça allait commencer. Ça allait commencer. Alors il leur confiait un mandat sacré et il tenait à graver en eux, dans leur cœur, qu'ils ne pouvaient rien accomplir sinon sans le secours du Saint-Esprit. Ce n'était pas possible. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. La communication de l'Esprit, c'est la communication de la vie de Dieu. Celui qui reçoit le Saint-Esprit est mis en possession des attributs de Christ. Il est enseigné par Dieu comme Christ l'était. Il est celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est celui en qui le Saint-Esprit agit, il est celui par qui le Saint-Esprit agit. Voilà ce que c'est un disciple en qui vit le Saint-Esprit. Jésus allait avec eux confirmant sa parole par des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi vous devez avoir une vie de prière, pour avoir des miracles qui confirment. Ça fait du bien de se sentir confirmé. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. C'est bizarre parce qu'un autre jour, il avait dit autre chose. Il avait dit sur une montagne, un sermon magnifique, et il avait dit, c'est formellement interdit de juger. Mais comment voulez-vous retenir les péchés de quelqu'un si vous ne jugez pas? L'Église a une responsabilité à l'égard de chaque membre et des gens du monde. Son devoir, c'est d'avertir, c'est d'instruire et si possible, de relever ceux qui sont tombés dans une faute. Paul dira plus tard, 2 Timothée 4, 2, « Reprends, censure, exhorte avec patience et en instruisant. » Ça, c'est pour les ministres. L'Église a le pouvoir, le devoir de s'occuper de ceux qui se conduisent mal. Galates 5, 21 nous dit, « Car ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Vous lirez la liste. Alors, s'ils persistent dans leur péché, alors le jugement que vous aurez prononcé conformément à la parole de Dieu sera ratifié dans le ciel. C'est ça que Jésus dit. Parce que en donnant la préférence au péché, en persistant dedans, eh bien, il renie Christ. L'Église doit montrer qu'elle s'oppose à de tels agissements, sinon elle déshonore son Seigneur. On doit s'opposer. Ça revient à dire que mépriser l'autorité de l'Église, c'est mépriser l'autorité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tant de gens quittent leur Église pour en trouver une plus bonne, une plus sympa, ou une où ils vont pouvoir tout recommencer à zéro, sans avoir à montrer le boulet qui traîne dans leur vie depuis des années, jusqu'à ce qu'ils se découvrent, parce que le Saint-Esprit met toujours tout en lumière. Mais heureusement, cette pièce a deux côtés. Elle a aussi son beau côté. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est ça, cette pensée-là, que nous devons retenir au premier plan, mes frères et sœurs. Chaque fois que l'Église dit, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité, 1 Jean 1,9. Chaque fois que l'Église dit cela à ceux qui se repentent, eh bien, elle donne une assurance. L'assurance que... Il aura encore pitié de nous Il mettra sous ses pieds nos injustices. Oui, Dieu, tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. Michée 7, 19. C'est ça qu'on doit retenir. C'est à ça qu'on doit s'attacher. Oh. Frères et sœurs, que l'Église accueille le pécheur repentant, qu'on le fasse sortir de ses ténèbres pour l'introduire dans la lumière. L'Église, elle a le pouvoir, le devoir de placer la main du repentant dans la main de celui qui est secourable, de Jésus. C'est son devoir. De celui qui est repentant. Une telle rémission des péchés, elle est ratifiée dans le ciel. Mais on n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés comme ça. Fais-moi une vacherie, Simone. Je peux te pardonner tout ce que je veux. Ce n'est pas comme ça. Il faut que ça se passe selon les ordonnances de Jésus. Amen. Je n'ai pas le pouvoir de pardonner tes péchés. Seulement si toi tu viens et tu dis « Pardon, ok, pas de problème. Fini, terminé. » Tu n'as jamais fait ça contre moi. Simone. J'ai pris Simone parce que c'est tellement évident. Mais les autres aussi, je veux dire, mais Simone, c'est une noceur âgée. Hein, je dis ça pour ceux qui sont sur Internet. Donc voilà. Hein. Une sœur qui lave les pieds des autres. Vous allez me dire tout le monde. Mais oui, bien sûr, mais c'est quelque chose de magnifique à son âge. Encore se courber en deux pour aller laver les pieds des autres. C'est magnifique. Sœur Rachel, ça, ma mère le faisait aussi. Voyez, c'est seulement dans ce sens que l'Église a le pouvoir d'absoudre le pécheur. Et non pas simplement parce que tu as été derrière une petite grille et tu as dit « J'ai péché, j'ai beaucoup péché, au nom du Père, du Fric et du Saint-Bénéfice, je vous pardonne. » Oh, dis donc, Sorens, le village de Sorens, là où vit Yves et Edith Brugère, j'ai vu sur Internet les informations à la TSR, vous appelez TSR.org, CH, et vous tombez sur la télévision suisse, puis vous regardez les informations d'avant-hier à 19h30. À Sorens, l'Église a décidé, ces deux bonhommes du conseil paroissial, ils ont décidé, ben voilà, tous ceux qui ont quitté l'Église, hein, catholique, eh bien, s'ils veulent se faire enterrer à l'Église, ça coûtera 15 000 francs suisses. 15 000 francs suisses. Ils disent, c'est normal! Hein? Ils n'ont pas payé leur impôt pour entretenir l'église et tout ça. Ben alors voilà quoi. C'est terrible. C'est terrible. Heureusement, il y a un gradé du dessus qui dit ah non, moi ça me choque profondément. Je pense que la chose ne passera pas. Mais vous rendez compte? Non. Quelle église? Personne dans l'église n'a le droit d'affranchir une âme de sa culpabilité, mais quand même. Quand même, on doit être bon. Jésus nous a chargé de prêcher la rémission des péchés en son nom à toutes les nations. Mais personne n'a le pouvoir d'enlever une seule tache de péché. Personne, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus, Actes 4, 12. Il ne vous appartient pas de pardonner en dehors des règles que Jésus a données. Ni de condamner en dehors des règles que Jésus a données. Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Il avait été au McDo, je ne sais pas où il avait été, mais il n'était pas là. Et quand il arrive, ben Jésus n'est plus là. Il est visiblement plus là. Parce qu'il est là, mais il est visiblement plus là. Alors, les disciples lui racontent, mais rien de ce qu'ils peuvent raconter n'enlève la noirceur du cœur de Thomas. Son cœur est sombre. Il reste incrédule. Et plus les disciples lui racontent les miracles, plus les disciples sont dans la joie, plus les disciples sont contents, plus lui, il souffre. Sa vanité a été blessée. Le maître est apparu à tout le monde, sauf à moi. Ouais, oui, voilà. Alors il est décidé de ne pas croire. Et il passe toute la semaine à ronchonner, à ressasser son malheur. Il dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, hein, vous imaginez, il le voit en face de lui, il va aller s'amuser à gratouiller dans les plaies. Non, mais il est malade. Si je ne mets pas ma main dans son côté percé, dégueulasse, je ne croirai pas. Quelle tronche! Il ne voulait pas se fier aux yeux de ses frères, qui étaient tous heureux. Ils étaient tous contents, sauf lui. Il ne voulait pas que sa foi dans le grand berger dépende de leur témoignage. Il ne voulait pas. Puis un soir, tout penaud, il a quand même rejoint les disciples à la chambre haute, parce que voilà, il ne savait pas où aller, il avait déjà vu tous les films qui passaient à Jérusalem. Alors malgré sa défiance, il espérait quand même vaguement que cette bonne nouvelle soit vraie, donc il vient. Pendant le repas, tout le monde parlait, ils parlaient tous ensemble, la bouche ouverte, ils parlaient des preuves que Jésus leur avait données, de sa résurrection, c'était extraordinaire, et comme d'habitude, la porte était fermée, verrouillée. Doucement, au milieu de la pièce, sans trop attirer l'attention, l'air sembla frémir, se solidifier. Doucement, Jésus apparaît. Il est là, au milieu d'eux. Et il redit, « La paix soit avec vous. » Et Jésus se tourne droit vers Thomas. « Bonjour Thomas. Avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. » Mets-la dans mon côté. Ah, ne sois pas incrédule. Crois ! Ah, Jésus donc n'ignorait rien de ce que Thomas avait ruminé pendant la semaine. Alors Thomas se jette aux pieds de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Il y a des gens qui disent, moi si je vois, alors je crois. Moi je suis comme Thomas, je doute. Mais si je vois, mon Seigneur et mon Dieu. Vous avez remarqué, Jésus reçoit cet hommage. Il est Dieu. Il ne dit pas, non, Thomas, exagère pas, je suis le Seigneur, mais je ne suis quand même pas Dieu. Non. Il reçoit cet hommage. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qu'est-ce que ça signifie, cette phrase? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la foi de Thomas, elle aurait été beaucoup plus agréable à Jésus s'il avait cru l'honnêteté de ses disciples. Tu vois, si tu veux imiter Thomas, tu ne pourras pas être sauvé par la foi. Et on ne peut être sauvé que par la foi. Si tu veux imiter Thomas, tu ne pourras pas être sauvé par la foi parce que la foi, elle ne peut être fondée que sur le témoignage des disciples d'aujourd'hui et sur les Écritures. C'est tout. Voilà ce que ça signifie. Ceux qui veulent voir pour croire seront confirmés dans leur incrédulité. Terrible. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui s'habituent à ne considérer que le côté sombre des choses, à murmurer, à se plaindre, à se méfier des serviteurs de Dieu. Ils sèment le doute. Que pensez-vous qu'ils vont récolter? Le doute.
Vous voyez,
par sa façon d'agir avec Thomas, Jésus a donné une leçon à tous ses disciples, à nous aussi. Jésus n'a pas accablé Thomas par des reproches, non. Il n'a pas engagé une discussion, une polémique avec lui en essayant de lui donner des explications, en répondant à toutes ses questions. Il s'est révélé, il s'est montré. Voilà, je n'ai pas peur de me montrer, il se montre. Thomas, il était complètement déraisonnable, fou. En fixant les conditions de sa foi. Si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, si je n'ai pas ci, si je n'ai pas ça, je ne crois pas. Mais Jésus, avec un amour très généreux, a renversé toutes ces barrières et l'incrédulité, vous savez, mes frères et sœurs, n'est jamais renversée par la controverse. Jamais. Jamais. On doute de vous, faites comme Jésus, montrez-vous. Montrez-vous. Ne vous cachez pas. Ceux qui doutent et qui ont des yeux pour voir, verront. La controverse, ça ne sert à rien. Elle ira toujours chercher des nouveaux prétextes, des nouveaux trucs, des machins, des soupçons, des trucs. Jésus se montre, mais se montre ferme. Il se moque un petit peu aussi. Oui, vas-y, mets les doigts. Je ne peux pas. Si, mets les doigts. Tu dois me croire. C'est un choix. Mais il laisse toujours quand même la porte ouverte pour que les Thomas douteurs puissent voir afin de croire. Alors, paix aux hommes de bonne volonté. Que la paix soit avec vous. Amen. Seigneur Jésus, aide-nous à être ceux qui croient. Non seulement en toi, mais aussi dans ton Église, ceux qui croient aussi dans les ministères, ceux qui croient aussi la bonne nouvelle annoncée, ceux qui sont non pas à chercher le côté sombre des choses, mais à chercher la lumière, ceux qui ne sont pas en train de soupçonner le mal, mais de toujours chercher à pardonner, à élever. Je te prie, Seigneur Jésus, que nous soyons tous de ces hommes, de ces femmes-là, afin que nous soyons tous trouvés dignes d'être enlevés avec toi lorsque tu reviendras. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, pour cette prédication. Je te demande, Seigneur, de m'inspirer encore d'autres choses, afin d'aider mes frères qui pourraient avoir des problèmes à se repentir, à changer de vision résolument, à détourner les yeux des ténèbres, à regarder à la lumière. Pas pour être ébloui, mais pour être éclairé. Père, je te demande, dans le nom de Jésus, que ta volonté soit faite et que la paix soit sur tout homme de bonne volonté. Amen.